premier colloque du syndicat français des arts thérapeutes. Corps présent, corps absent en art thérapie. Samedi 25 juin 2022.
Question-réponse avec les arts thérapeutes Béatrice Garcia-Réan et Delphine Vitou.
On aura peut-être des liens à faire aussi avec la présentation de Tania, parce que j'avais gardé une question d'Aurélie David et je pense que ça peut être un bon point de départ. La question de l'identité en art-thérapie est très intéressante. Ici, c'est à travers la question de genre, donc pour la présentation de Tania, mais c'est à questionner de manière plus large. Alors, par exemple, l'identité d'une petite fille qui ne développe pas l'usage de ses jambes, l'identité des personnes âgées qui perdent certaines parties de leur mémoire.
Delphine Vitou.
L'identité, ils perdent leur mémoire, ils perdent leur maîtrise sur le corps, ils perdent beaucoup. Je rebondirais avec, c'est ce que je mettais en lumière avec le choix du fauteuil. C'est que c'est d'abord à nous de les considérer pleinement, voire surpleinement, je ne sais pas, pour nourrir ça chez eux, pour les inviter à le faire. Souvent, les personnes me disent « Ah oui, si vous voulez, ah ben moi, je ne sais pas. Elle vous plaît, cette musique ?»« Oui, oui, mais si vous voulez. » C'est vous, ce qui est important, c'est vous. Est-ce que ça vous plaît ? Il faut insister, en fait, nourrir ça dans notre comportement à nous.
Béatrice Garcia-Réan.
Déjà, quand on va plus ou moins bien et qu'on est soi-disant normal, la question du corps, elle est toujours à l'épreuve dans l'acte de grandir, d'en vieillir, dans la perception qu'on peut avoir de notre corps. Donc, qui plus est, quand on est atteint physiquement dans son corps, comment ce corps on le vit, comment on le perçoit, quand il est défaillant, quand il porte certains stigmates qui sont visibles par les autres, le regard des autres. La question d'identité, se joue pleinement à tous les niveaux.
Et justement, Romane faisait un commentaire sur le collage. Elle trouve que c'est un outil intéressant, notamment lorsqu'il est utilisé lors d'ateliers sur l'identité ou comme première amorce à la pratique de l'art-thérapie. On peut faire beaucoup de choses avec cette technique. Comme Béatrice, vous l'aviez dit, toute l'idée de toutes les manipulations qu'il y a à faire avec le papier et tout le rapport au corps que ça peut avoir en fait, de manière très concrète.
Alors, je dirais que c'est beaucoup ma pratique auprès des adolescents qui m'a amenée à m'intéresser à cette approche-là, parce que beaucoup, les adolescents sont dans un indicible de pouvoir parler d'eux, de pouvoir investir la question de la création en disant « mais bon, moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas comment faire ». Donc, souvent, c'est vrai que j'ai eu à proposer cette approche-là. Et dans le cas de Rebecca, ça a été quand même assez signifiant parce que je me suis saisie de ce qu'elle a amené dans l'espace, dans la séance, à ce moment-là, en faisant quelque chose qu'elle doit investir et qui a pris du sens, elle a donné du sens. Donc, oui, c'est fort intéressant. Et puis, autour de ça, il y a tous les aspects aussi que ça amène au niveau ludique, au niveau du jeu, au niveau du lâcher-prise. Comment on va venir aussi parler de soi, de son corps, dans quelque chose, comme dit Jean-Pierre Quin, qui est dans la stratégie du détour, dans le mine de rien. Et pour tout ça, je pense que le collage peut être vraiment une approche intéressante.
Et puis toutes les deux, vous mettez vraiment en avant l'idée de spontanéité et de rencontre. On a Romane, encore une fois, qui remercie Delphine. Elle va intervenir en octobre au sein d'un réseau, du réseau Corian également. Étant une première pour elle, du coup, ça éclaire ses questionnements en termes de posture, d'éléments à valoriser, de modalités de prise en charge artistique, etc.
On a tous une identité propre, mais...
En tout cas, elle pointait le fait que pour elle, c'était pas du tout la population avec qui elle travaillait. Et donc, ça peut avoir des enjeux et ça peut créer aussi peut-être des résistances ou des blocages chez l'art thérapeute de rencontrer une nouvelle population, si on peut dire ça comme ça.
Mais là-dessus, il me semble que chaque intervention se nourrit des autres. En fait, il y a des choses, par exemple, j'interviens aussi en maternelle et je me rends compte qu'il y a des choses communes entre, pour la simplicité ou la capacité à dire « vous, alors vous le faites avec moi ?» Et ils disent « oui, oui », sans bouger. Et c'est la même chose en EHPAD, en maternelle, parfois. « Oui, oui, ah bon, d'accord. » Enfin, voilà, pour dire qu'il y a des liens qui se font entre nos interventions et les publics auprès desquels on intervient. On peut se nourrir de l'un pour faire avec l'autre.
Isabelle Ferré.
Pour revenir sur la question d'identité, je me disais que l'identité, elle est plurielle aussi. Elle est faite de séquences de vie, de temps de séparation, de remise en lien, de transformation avec des manques. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit dans chacune des interventions. Donc, c'est vraiment intéressant dans la thérapie, comment on peut travailler sur ce manque et sur cette constitution des de l'identité et des identités qu'on a en nous. On l'a vu un petit peu avec Tania, il y aurait plein de questions à poser. Et là, on est dans des questions de manque et de perte et d'autres choses après, ou de faire avec et avec d'autres moyens, d'autres déploiements qui jouent sûrement au niveau cérébral, d'ailleurs, et neurologique. Et je pensais au collage, ce qui est intéressant, effectivement, pour l'intervention de Béatrice, le collage, ça permet... Il y a des restes. C'est cette boîte dont parlait Béatrice. Je pense qu'elle est vraiment fondatrice aussi. C'est-à-dire dans une boîte, ces restes, ces fragments. C'est un peu ça l'identité. C'est aussi constituer une petite boîte en soi où il nous reste des choses. Et après, qu'en fait-on ? Est-ce que cette boîte, on fait son deuil ? Enfin, ça peut être tout un travail justement où ça recolle, ça permet de reconstituer une autre forme. Et ça, sur la constitution permanente de l'identité, je trouve ça assez passionnant. Parce qu'elle se reforme au fil de la vie, sur un fil continu. En fait, comme ça, je pourrais l'imager.
Il y a cette identité, comme Tania disait, il y a un positionnement, on se positionne d'une certaine manière. Mais aussi, à un moment donné, qu'est-ce qui voyage avec nous aussi, comme une espèce d'essence ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui reste aussi comme une matière constante sur laquelle aussi on modèle ? Donc, c'est quoi cette base que nous, on amène comme un socle, d'une certaine manière ? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui reste ?
Ouais, j'ai une question pour Béatrice. Vous évoquiez tout à l'heure vos questionnements par rapport au rôle du dispositif que vous avez utilisé, donc de découpage-collage, dans l'émergence en fait, des questions de votre patiente sur le devenir de ses jambes, etc. Et je me posais la question, dans quelle mesure cette médiation que vous avez proposée par découpage-collage a été neutre ou pas ? C'est-à-dire, de toute façon, ce questionnement serait apparu, quelle que soit la médiation que vous avez utilisée, ou est-ce que c'était vraiment cette histoire de découper-coller qui a été le déclencheur de tout ça ?
Je ne saurais pas répondre de manière infaillible, hein. Je pense que le collage lui a permis de mettre en sens son questionnement, qu'elle agissait plutôt qu'elle l'élaborait, puisqu'on avait repéré des mouvements, en tous les cas, de comportement d'agressivité, de prise de poids, de difficultés dans les interactions. Donc, je pense que ce questionnement-là, elle l'avait dans l'ambivalence, effectivement, de gagner en autonomie parce qu'une possibilité d'appareillage se présentait, mais d'un autre côté, toutes les fractions que ça pouvait représenter par rapport à son corps, par rapport à la perte. C'est vraiment une perte, puisque là, c'est pas on appareille dessus, c'est vraiment on coupe, on enlève pour mettre autre chose qui n'est pas de moi. Après, je ne saurais répondre de manière infaillible, mais je pense que le collage a pu soutenir la mise en questionnement. Et dans la conclusion que je fais, je me dis effectivement, peut-être aussi que, parce qu'à un moment donné, cette boîte où on a conservé les pièces advenues d'une séance à l'autre, je pense aussi qu'elle a été beaucoup aussi sous-entendue par moi, mes angoisses aussi d'art thérapeute qui commence, d'accompagnement. Mon Dieu, avec la question qu'elle a posée, là, j'ai quelque chose qui me sidère, mais qu'il ne faut pas que je laisse en état de sidération. Bien sûr, ces jambes, il ne faut pas les jeter. Donc, tous ces fragments, il ne faut pas les jeter. Il faut pouvoir en faire quelque chose. Mais comment ? Voilà, c'est pour ça, dans l'après-coup aussi, je m'interroge de est-ce qu'aussi ça aurait été pertinent de lui permettre aussi de pouvoir faire le tri, je ne sais pas à quel rythme, à quelle fréquence, mais c'est des questions qui me mettent moi au travail, mais dont je n'aurais pas forcément une réponse clairement identifiée. Oui. Après, dans d'autres expériences que j'ai pu avoir auprès de d'autres enfants et d'adolescents dans des problématiques différentes, mais qui touchaient aussi à la question du corps et de l'identité, j'ai vu aussi les effets du modelage, la question de l'argile. Donc, c'est une question aussi que je me suis posée dans l'après-coup. Est-ce que ça a été aussi un médium intéressant, puisque dans la question du rebut, il y a des choses plus facilement gérables avec l'argile qui peuvent être abordées et traitées. Donc voilà, c'est des questions que je me suis posées dans l'après-coup.
Angela Evers.
Oui, j'entends bien la question. Après, est-ce que le patient, quel qu'il soit, ne se saisit pas de ce qu'on présente, que ce soit l'argile ou le collage ou autre chose ? Est-ce qu'il ne va pas de toute façon se saisir de ces matériaux, de cette expression, pour sortir ce qu'il a besoin de sortir ? De toute façon, avec le recul, on ne peut pas savoir. Donc, c'est faire confiance qu'il va trouver une expression, il va jouer avec ce qui est là pour exprimer les choses, que ce soit avec la terre ou avec le collage, peut-être, peu importe. C'est difficile de dire après, ça aurait été peut-être mieux, on ne sait pas. C'est ce que toi t'as proposé à ce moment-là, donc c'était sûrement juste pour toi aussi à ce moment-là.
Oui, et puis c'est beaucoup notre aussi capacité à accueillir et accompagner ce qui se vit dans l'instant présent et ce qui se joue, ce qui se fait dans l'instant présent.
Je pense que ça rejoint la question du corps de l'art thérapeute, effectivement, parce que ce n'est pas neutre non plus ce qu'on va proposer à tel moment, et on le porte. Il y a quelque chose qui, sans être formulé, je pense, fait partie de l'interaction et de la relation, justement, qui se disait ce matin, reliée à la relation psychique et corporelle, la corporéité de patient à art thérapeute, comment on porte soit notre médium, soit un autre, et la proposition qu'on va faire ce jour-là, qui sera peut-être une autre demain.
Justement, il y a des commentaires qui nous sont laissés qui sont très, très intéressants. Justement, Estelle disait tout à l'heure, c'est la possibilité aussi de laisser de la place ou le temps. En leur laissant la possibilité de faire des choix, c'est favoriser l'expression de leur identité. Donc, c'était pendant la présentation aussi de Delphine, donc comme on laisse aussi que les choses puissent émerger. Il y a Célia qui nous dit, le sentiment d'identité s'appuie sur un faisceau de sensations qui donne un certain goût de soi, en majuscule, et des autres aussi en groupe parfois. Et Dominique partage par rapport à son expérience. J'ai beaucoup travaillé avec le collage en EHPAD et notamment sur son apport dans un travail de deuil et comment il a permis à la personne âgée de valider son histoire de vie. Ils me disent aussi, les signatures corporelles sont autant de signes reconnaissables de notre singularité. Rodrigo.
Bon, ce que Béatrice était en train de dire, ça m'a fait penser à la plus grande ou moins directivité au niveau de ce qu'on propose à nos patients, clients, enfin bon. Et je me souviens d'un stage que j'ai fait en hôpital psychiatrique avec des non-imputables, pas au niveau des médiums, parce que ce qui était proposé, c'était les arts plastiques, mais au niveau du travail. Donc la démarche était de une semaine sur deux, je ramenais un conte de fées. Et donc, après l'écoute de ce conte de fées, chacun faisait son dessin. La semaine suivante, c'était libre. Donc, ils prenaient leurs feuilles et faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, cette alternance entre directivité et non-directivité était fort intéressante. On peut peut-être faire une transposition au niveau des médiums. Parfois être plus directif, parfois être moins directif. Par exemple, quand je travaille avec des toxicomanes et des alcooliques, donc des personnes avec des addictions, là, je dois être plus directif, normalement. Ou alors, par exemple, faire une démarche au niveau intégrative. Donc, par exemple, raconter une histoire et puis la dramatiser, passer à une expression dramatique à partir de cette histoire. Comment chacun l'a ressentie, comment ils vont la mettre ensemble, ils vont la faire vivre. Voilà, c'était une petite intervention par rapport à cette directivité et non-directivité. Je crois que ça peut être très, très riche, aussi bien une démarche comme l'autre. Ça dépend en fait des personnes avec qui on va travailler, avec qui on va faire un parcours.
Et puis j'ai envie de dire que la première des matières, finalement, c'est nous-mêmes. Quand on arrive, finalement, le médium, il est là aussi, mais... C'est comment nous, on va investir aussi cette relation, ce temps de création. Tout est en jeu de toute façon. Donc oui, je suis assez d'accord avec Angela. Peut-être peu importe ce qu'on va proposer, c'est comment on va investir le je sais pas, peut-être un mot un peu plus puissant que je n'ai pas maintenant, mais voilà, c'est important aussi.
Et faire confiance au processus aussi.
Pour poursuivre dans cette idée-là, par rapport à la directivité, en termes de consignes, moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma pratique au niveau non-verbal et au niveau musical, vu que je travaille surtout en musicothérapie, où du coup, la directivité, elle est dans la relation. Et donc, je n'utiliserai pas le terme directivité, tout simplement. Ça va être une invitation par le geste, par le corps, par le rythme, par tout plein d'éléments. Et c'est vraiment mon intention. Et là aussi, c'est comment dans le corps, il y a une intention qui s'incarne, peut-être. Et tout à l'heure, on parlait de l'importance de la parole, où du coup, le corps, il peut faire intention. Par rapport à cette coïncidence de tout à coup proposer du collage et ça permet un travail sur cette représentation du corps, il y a des coïncidences. Alors, ce n'est pas du hasard. Je ne suis pas la seule à me rendre compte que des fois, c'est ce truc trouvé créé de Winnicott où en séance, il se passe quelque chose dans la relation. On ne pouvait pas le prévoir. Voilà, c'est là. Et on fait avec. C'était la réponse. Enfin, voilà, j'ai du mal à traduire cette sensation. Les choses se font aussi de manière peut-être très inconsciente.
Peut-être sur cette partie de directivité ou plus libre, je pense que c'est quelque chose que nous nous posons aussi toujours comme question, car nous sommes face à des patients. Donc, qu'est-ce qui est le plus juste et pertinent pour les personnes que nous accompagnons? Donc, il y a des moments où on va être beaucoup plus dans quelque chose qu'on appelle non-directive, parce que les personnes sont dans une possibilité de le faire, avec un sentiment de sécurité plus important, une capacité créative aussi qui se développe, et ils sont plus autonomes. Et on va être peut-être dans des formes un peu plus directives, dans des personnes très fragiles, en grande souffrance, qu'on ne va pas laisser comme ça explorer d'une manière trop, trop libre, car c'est contre-indiqué même pour ces personnes. Donc, on va dire que nous sommes toujours dans un ajustement de ça et que nous pouvons tout, comme tout à l'heure pour la parole, parfois on peut parler, parfois on ne parle pas, parfois on met un peu plus l'accent, parfois non. Et peut-être ce que je voulais relier un petit peu des trois interventions qu'on a eues cet après-midi et que je trouve vraiment très intéressante, c'est cette invitation que vous nous faites toutes les trois aussi à continuer à nous poser des questions et à ajuster et à réfléchir, à revenir aussi en arrière sur ce qui a été fait. Et ça me permet de faire le lien avec le besoin de supervision. Comment nous devons continuer à être supervisés pour pouvoir aborder ces éléments? Comment nous devons pouvoir continuer à être dans une formation continue ou un développement professionnel continu? Donc, Tania nous a parlé sur ces éléments par rapport à l'approche que nous devons avoir pour pouvoir nous déconstruire, nous défaire de certaines choses quand on accueille la communauté LGBT. Delphine, nous avait parlé aussi de toutes ces relations aussi avec les neurosciences. C'est un élément qu'on ne travaille pas forcément là tout de suite et plein de liens aussi vis-à-vis du public auquel vous travaillez. Et Béatrice, c'est aller-retour justement, ces questions si pertinentes que vous posiez là de « est-ce que j'aurais fait pareil aujourd'hui avec l'expérience que j'ai ?» Et c'est super intéressant comment il y a cette invitation à rester dans ce questionnement et avoir un regard aussi du fait d'accepter aussi de ne pas savoir et d'ajuster.
C'était juste pour, enfin, je voulais dire par rapport à directivité ou non, et effectivement en fonction des publics avec lesquels on travaille, enfin des personnes, l'angoisse de la page blanche existe. Donc, je sais que pour les personnes avec des troubles cognitifs, juste leur dire faites ceci sans le faire. Alors il y a des techniques, enfin il y a des gens qui apprennent la danse-thérapie en disant qu'on ne va pas faire et qu'on va juste parler. Je serais vraiment curieuse de voir ce que ça donne. Et moi, il me semble qu'il faut, dans ces cas-là, il faut les nourrir, leur apporter des choses et des choses qui sont accessibles. Et par rapport aux matériaux, effectivement, le hasard qui fait bien les choses, c'est super. Néanmoins, il y a quand même des spécificités de chaque technique qui peuvent nous indiquer, enfin, nous mener sur un chemin. Alors, l'exemple qu'on nous prenait toujours en formation, c'est que, par exemple, si on travaille avec des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui, ou en tout cas qui sont dans cette maîtrise absolue, on ne va pas tout de suite leur dire « vous prenez vos mains, vous prenez de la peinture et vous y allez » parce que, ou alors « vous allez mettre de l'encre et vous verrez bien où ça va ». Trop grosse angoisse, enfin probablement, hein, après ça peut se tenter, je ne sais pas, mais en tout cas moi je le comprenais bien quand on nous l'expliquait, trop grosse angoisse du hasard total, quoi. Donc on passe par quelque chose d'un peu maîtrisé, par exemple le modelage, on va apprendre le colombin et le machin, et puis après peut-être qu'à un moment on va, ou alors ça se passe en séance, la personne toute seule à un moment met la main dans la terre, elle se dit « oh, c'est super en fait ce contact et puis en fait je peux faire un splotch et c'est chouette ». Mais sinon, on y va par étapes pour arriver à quelque chose de plus archaïque et plus libre. Donc en ça, je pense que les techniques et les choix qu'on fait peuvent être importants quand même en fonction des objectifs et des difficultés des personnes.
Question d'Isabelle Redon, ça s'adresse de nouveau à Béatrice. Est-ce que la jeune fille avait une demande ou une idée de ce que devaient devenir ses jambes, son corps perdu? Peut-être pour aider à accepter son nouveau corps, son évolution dans l'espace et le temps. Il y a l'idée de sa représentation, de ce qu'allait devenir, ce qu'elle allait perdre. Comment accepter ce nouveau corps?
Déjà, ce n'était pas une jeune fille, hein, c'était une enfant de 5 ans. Quand elle m'a posé la question, j'avoue que moi-même, je n'avais pas la réponse chirurgicalement comment ça se représentait, c'est-à-dire à quel niveau son membre allait être coupé ou pas, qu'est-ce qui serait fait, est-ce qu'après c'est montré, est-ce que c'est incinéré, est-ce que c'est enterré. Voilà, il y a des réponses qu'au moment où elle a posé la question, même moi, intérieurement, je ne savais pas. Que moi, je l'ai beaucoup encouragée à pouvoir discuter avec les médecins chirurgiens de comment ça pouvait se présenter, cette intervention, comment ça se passe, etc. Donc, il y a des réponses où c'était d'autres spécialistes que moi qui pouvaient lui porter dans la question du réel, en tous les cas, dans la question du réel.